Il est 18h dans le studio Kalangou. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal au micro Gungu Maman Dantani. Au sommaire de cette édition, fin aujourd'hui des travaux du 43e sommet du G7 en Sicile, en Italie. Invités de la deuxième journée, plusieurs chefs d'État africains, dont le président nigérien Issoufou Mamadou, nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Tenu ce matin à Niamey d'une conférence débat sur l'extrémisme violent à la Maison de la Presse. La luzerne peut être la solution pour faire face au déficit fourrager de cette année dans la région d'Agadez. C'est le sujet du magazine de ce jour. Mesdames, messieurs, avant de débuter ce journal, l'ensemble du personnel du studio Kalangou et ses partenaires vous souhaitent un bon Ramadan. Revenons à présent dans le corps du journal. Je le disais dans le sommaire de cette édition, les travaux du sommet du G7 prennent fin aujourd'hui même. Ce matin, 5 dirigeants africains, ceux du Niger, du Nigeria, du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tunisie, ont rencontré les chefs d'État du G7 pour parler, entre autres, des questions de sécurité et de développement économique sur le continent africain. Je vous propose d'écouter le président de la République, Issoufou Mamadou.
Alors effectivement, le G7 avec les chefs d'État africains qui sont présents à ce sommet ont échangé sur naturellement les questions de sécurité, en particulier sur le terrorisme, surtout dans la bande sahélienne dont fait partie le Niger. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de mutualiser les capacités opérationnelles et de renseignement à l'échelle mondiale pour faire face à cette menace. On a surtout insisté sur la nécessité de mettre en place cette force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, en particulier au nord du Mali. Et nous constatons que nous avons reçu le soutien des pays du G7 par rapport à l'opérationnalisation de cette force du G5 Sahel. On a insisté également sur la nécessité de sortir de la crise libyenne.
Le président Issoufou Mamadou, au cours de cette deuxième et dernière journée du sommet, les travaux ont notamment porté sur l'avenir de l'accord de Paris sur le climat. Notez que le président du Niger, Mamadou Issoufou, a rendu hommage sur les ondes de France 24 au journaliste et rédacteur en chef de France 24, Jean-Karim Fall, décédé subitement hier alors qu'il couvrait le sommet G7. On l'écoute.
À l'annonce de la disparition subite de Jean-Karim Fall, nous avons été consternés ici en Sicile, d'autant plus consternés qu'il était prévu que je m'entretienne avec lui ce matin sur les conclusions du sommet du G7. Jean-Karim Fall, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. La dernière interview que je lui ai donnée, c'était, comme vous l'avez dit, au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Sa disparition, c'est comme un coup de tonnerre ici en Sicile. Je garde le souvenir d'un grand professionnel, de quelqu'un qui a toujours donné l'information qu'il faut sur l'Afrique, sur la situation de nos pays, une information objective, une information rigoureuse, sans travestir les réalités africaines. C'est, je crois, le souvenir que gardent de lui tous les Africains qui l'ont connu.
En bref, deux casques bleus nigériens décédés en Côte d'Ivoire, ONUSI, pendant qu'ils servaient dans l'opération des Nations Unies, ont été honorés à titre posthume par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'était le mercredi 24 mai dernier, lors de la célébration au siège de l'ONU de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Au total, 117 militaires et policiers et civils ont perdu la vie en servant dans des opérations de maintien de la paix en 2016. Une conférence débat s'est tenue ce matin dans la grande salle de la réunion de la presse à Niamey. Deux éminents conférenciers, le président du MPCR Mouvement pour une citoyenneté responsable et Madame Wali Maimou, spécialiste sur les questions de prévention de la radicalisation, ont animé la dite conférence sous le thème « Dialogue démocratique sur l'extrémisme violent ». Qu'est-ce que c'est que l'extrémisme violent? Nuhu Arzika, président du MPCR.
Nous devons retenir que l'extrémisme violent décrit les croyances et les actions des personnes qui soutiennent ou utilisent la violence pour atteindre des objectifs idéologiques, religieux, comme c'est le cas de Boko Haram, politique, comme c'est le cas aussi qu'on a vu du Burkina. Cela inclut les autres formes de violence communautaire. Le problème que ça pose en termes de problématiques sérieuses, fondamentales, lorsque beaucoup de citoyens du monde se préoccupent de la paix, se préoccupent de la fraternité, de l'amour et de la solidarité à promouvoir dans la cité, dans l'humanité tout entière. Une très grande partie de cette humanité est une victime injuste de quelques lobbies, de quelques petits groupes d'intérêts qui manipulent des États, qui manipulent des groupes, qui manipulent, j'allais dire, tout le monde pour rendre possible le développement de ces multiples facettes de violence que nous constatons de par le monde.
Pour sa part, Mme Maimou a analysé les facteurs de vulnérabilité et les capacités de résilience des communautés face à l'extrémisme violent au Niger et au Burkina Faso.
Quand on parle de l'extrémisme violent au Niger, c'est pour la première fois qu'une étude de cette envergure est en train d'être réalisée pour nous renseigner sur les facteurs de vulnérabilité, mais également les capacités de résilience des communautés face à l'extrémisme violent. On a souhaité qu'on ait d'abord une phase test à DIFA. Donc la phase test a duré presque 6 mois où on a discuté ensemble avec les communautés, avec les autorités locales, avec les organisations de la société civile, les organisations des femmes, les organisations de la jeunesse pour pouvoir avoir leurs récits, leurs vécus, leurs opinions par rapport à comment est-ce qu'ils ont vécu la situation. On a eu à interviewer des victimes des opérations de Boko Haram, mais également des acteurs de Boko Haram. Actuellement, les résultats des DIFA sont disponibles, mais sont en train d'être analysés au niveau de la région de Tillabéri. C'est 3 communes qui sont concernées par le titre, la commune de Bani Bangou, Tondiki Windi et la commune de Inates.
Toujours dans le domaine de sécurité, le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed a présidé ce matin une réunion d'échange avec les responsables des comités de vigilance du département de Torodi. Le forum a porté sur la sécurité, la prévention des conflits, la coexistence pacifique et le développement. Dans le nord du pays, la ville d'Agadez est confrontée depuis quelques jours à d'énormes perturbations dans la distribution d'eau. Cette problématique préoccupe beaucoup la population de la ville. Écoutons la réaction de Sanoussi Lamine Mahaman, membre du mouvement patriotique pour la citoyenneté responsable MPCR, région d'Agadez.
Ce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne comprenons pas, c'est dans un contexte où l'État renforce les capacités de mobilisation et de rétention d'eau dans la ville d'Agadez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le lancement de construction des châteaux d'eau et l'inauguration des châteaux d'eau. En principe, on ne devrait pas avoir de problèmes d'eau. Mais la réalité, à la pompe, il n'y a pas d'eau. Vous conviendrez avec moi que la situation, elle est préoccupante et les familles aujourd'hui n'ont pas de l'eau à boire. Et aujourd'hui, nous sommes une population musulmane en majorité. Pour pratiquer notre religion même, on a besoin de l'eau. Et que c'est ce qui nous manque, curieusement, dans la commune urbaine d'Agadez.
Selon la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN Agadez, cela est dû essentiellement aux grandes chaleurs enregistrées ces derniers temps et la capacité d'exploitation ne peut pas couvrir la ville d'Agadez. El Hadji Rabiou Issifou, directeur régional de la SIN Agadez.
Bon, faut dire d'abord que c'est un problème passager. Là, nous sommes en période de très grande chaleur. Notre capacité de production n'arrive pas à couvrir les besoins de la ville d'Agadez. Parce qu'il faut dire que Agadez grandit quand même. Hein. Donc, pour cela, parce qu'il faut soulager les gens, nous avons pensé faire ce délestage, qui est en fait une distribution d'eau par alternance, hein, c'est tout. Donc, on a divisé la ville en deux. On donne le matin à une partie et la nuit à une autre partie. Je veux dire les quartiers très éloignés, qui sont légèrement en hauteur. Donc, pour qu'ils aient de l'eau avec pression, il faut que ça soit la nuit que nous puissions leur envoyer de l'eau. Grosso modo, c'est tout. Maintenant, pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé juste parce que le projet qui est censé en fait boucler, amener de l'eau en quantité suffisante, son volet électrique n'est pas encore fini. Ce projet, il était censé amener de l'eau additionnelle à la ville d'Agadez parce que ça fait beaucoup de forages, ça fait beaucoup de pompes, il faut alimenter en énergie électrique. Les groupes sont là, mais il faut changer tout le circuit électrique, changer les transformateurs. Ces transformateurs sont commandés, ils prennent du temps, mais ils sont en train d'arriver au Niger. Dès qu'ils seront là, le projet va être bouclé et là, Inch'Allah, on n'aura plus d'eau.
Dans un tout autre aspect, 48 heures après l'accident survenu sur la route de Bolbol-Douti dans la journée du jeudi, le bilan s'est alourdi. Parmi les blessés admis aux urgences du centre hospitalier régional de Dosso, 3 personnes dont une femme ont succombé à leurs blessures hier, selon une source à la morgue, ce qui porte à 12 le nombre des morts de ce terrible accident. Le drame s'est produit jeudi dernier aux environs de 15h quand 2 véhicules IAS 19 places et un bus de la compagnie de transport Sonef sont entrés en coalition. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans tire à sa fin. C'est à partir de 17h30 que débutera demain le match pour la 3e place entre le MENA du Niger et le Sili Cadet de la Guinée-Conakry. Après, suivra la finale à 20h30 au stade de l'Amitié de Libreville. Comment le MENA en est-il arrivé là? Rappel avec Soumana Amadou.
En match de groupe, les cadets du Niger ont tout d'abord fait match nul 2-2 contre l'Angola avant de perdre contre le Mali 2-1. Ensuite, ils ont battu les Tanzaniens par 1-0. Cette victoire face aux Tanzaniens leur a permis de se qualifier pour la demi-finale de la CAN. Qualification qui leur a aussi donné leur ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue en octobre prochain en Inde. Quant à la demi-finale face au Ghana mercredi dernier, rappelons qu'il a fallu en passer par l'épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. Score final, 5 tirs réussis pour les Nigériens contre 6 pour leur adversaire ghanéen plus chanceux. Selon le sélectionneur du MENA Cadet, Soumel Tchemogo, la qualification pour le mondial était l'objectif premier des dirigeants du football nigérien. Mais l'autre objectif était d'obtenir une place sur le podium de la CAN. L'équipe nationale, a-t-il dit, fera tout pour gagner le match de dimanche contre la Guinée.
Merci Nafissa Adamou pour ce commentaire.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Partie magazine à présent, comment faire au déficit fourrager de cette année? La question est sur toutes les lèvres dans toutes les zones pastorales. Dans les zones comme Tirozérine, région d'Agadez, on peut résoudre ce genre de déficit en favorisant l'exploitation de la luzerne, un aliment bétail très riche et très apprécié par les animaux. En mission dans la zone en avril dernier, notre reporter Amadou Moumouni s'est intéressé à l'exploitation de cette herbe dans le village de Hararous. Reportage Amadou Moumouni, commenté par Nafissa Adamou.
La luzerne est produite dans le périmètre hydro-agricole du village d'Hararous, département de Tirozérine. C'est un aliment bétail très prisé car riche en urée. Les animaux qui en mangent grossissent rapidement avec une bonne quantité de lait. Pour le directeur du périmètre, la zone Hararous peut être une zone de lutte contre le déficit fourrager. Ousmane Idrissa.
Les gens rencontrent beaucoup de difficultés du fourrage. Parce que c'est une période de soudure où tout ce qui est herbe est consommé. Donc cette herbe-là qu'on met en valeur qu'est la luzerne peut servir à cette période pour un peu casser ce rythme de pénurie, de manque d'aliments bétail. Et surtout qu'encore il y a beaucoup de potentialités. C'est-à-dire que dans la superficie actuelle de 100 hectares, on met en valeur qu'est vraiment un dixième. Et il y a des opportunités, nous avons jusqu'à 3 forages.
Aujourd'hui, sur les 100 hectares de terre mis en valeur, à peine une douzaine d'hectares est exploitée. Le problème est que les producteurs n'arrivent pas à écouler la précieuse herbe. Mohamed Agali est un jeune producteur qui a fondé beaucoup d'espoir sur l'exploitation de la luzerne. Dessus, il nous compte ses difficultés.
Il y a la facture à payer qui est de 6 200 francs. Par mois, la production est là et qu'il n'y a pas de débouché. C'est ça qui fait que les gens ne s'arment pas pour prendre beaucoup de surface. Difficilement, on se débrouille actuellement. D'un côté, ça nous permet d'entretenir nos animaux. Et du reste, on est en train de stocker et espérer qu'on peut avoir un débouché un jour.
À ce problème de débouché s'ajoute une autre difficulté, la mauvaise organisation des producteurs. Le directeur du périmètre hydro-agricole interpelle tous les acteurs. Ousmane Idrissa.
À peu près 2 tonnes actuellement qui ne sont pas écoulées et la culture continue. C'est toujours le manque de débouchés. Parce que l'année dernière, l'État avait placé un fonds où les gens écoulent directement leurs produits. Actuellement, les produits sont entreposés et ils attendent toujours les prix de l'État là et encore des débouchés. Ici même au niveau de l'organisation, les gens ne font pas des efforts pour trouver des débouchés. Nous voulons être appuyés dans ces domaines d'information là pour que ces gens sachent que ce stock est là et on peut l'avoir à tout moment.
Pour l'heure, les producteurs sont pessimistes et ne voient aucune solution immédiate pour faire face à la mévente. Tout est là, stocké du l'un d'eux. Certains espèrent l'appui de l'État, comme l'année passée qui a dû mettre la main à la porte.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cet élément que prend fin ce journal d'aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure. Au revoir.